19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir chers amis auditeurs, j'ai voulu faire kiffer notre ami Raïd Chaibi. J'aime bien, vous avez kiffé, vous avez
pris le petit cadeau de fin d'année 2023.
Voilà, c'était son petit cadeau, exactement. Le Père Noël est passé par là. Bonsoir chers amis, c'est parti au sommaire de cette émission. Vous le savez, encore avant de retrouver demain, hein, pour clore la semaine, eh bien, ce que je vous propose, jusqu'à 20h, ce soir, une heure pour commenter et décrypter, analyser l'actualité du beau monde ce soir, puisque les débatteurs influenceurs sont parmi nous. Et nous recevrons aussi une invitée, maire adjointe de la ville de Bondy, qui s'est retrouvée évidemment avec des actes de vandalisme. Puis elle vit aussi des périodes un peu sombres parfois. Nous allons en parler avec elle. C'est la chef de file du DI, à qui on a mis donc l'incendie de sa voiture sur le compte de la politique locale. On en parlera dans une poignée de minutes. Elle est en plateau et en direct avec nous ici même. Ensuite, après, au sommaire de cette émission, nous reviendrons, vous savez quoi, tout simplement sur la loi immigration. Allez, Éric Ciotti qui se dit agacé. Non mais je rêve. Clochette. La fronde des départements de la gauche est une sédiction. Allez, clochette. Je préfère. Parler de décivilisation, c'est ce qu'a lâché, évidemment, l'expression qui a été lâchée. Mais qu'entendons-nous par décivilisation, comme le fait Emmanuel Macron? Alors, est-ce que c'est un contresens? C'est quoi au juste? Qu'est-ce qu'on n'entend pas là? Ça tombe bien, on a Abel Bowie qui va nous expliquer, évidemment, puisque lui, il prend son bâton de pèlerin pour aller à la rencontre de tous ces jeunes des quartiers populaires, ou tout simplement auprès des habitants des quartiers populaires. Ensuite, après la loi d'immigration, nous parlerons aussi d'un autre sujet. C'est une tribune. Une tribune que moi, il m'a interpellé. Ça se passe dans Libération. Loi immigration, nous sommes des millions à nous sentir rejetés par le plus haut sommet de l'État et les institutions de notre démocratie. Bon, on va en parler, chers amis, avec nos débatteurs influenceurs. Allez, c'est tout de suite. C'est maintenant, mais vous savez quoi? J'ai envie de réserver un autre petit cadeau. Vous allez écouter ça. Et ensuite, après, je vais le commenter. Écoutez ça. Générique. Vous avez reconnu?
Bien sûr. John Williams.
Absolument.
Absolument.
Star Wars.
C'était pour vous, Gamal
Abidine. Oui, je suis votre ami.
Pour une fois, vous êtes à l'heure.
Bravo, je suis là.
Il est toujours en retard. Toujours en retard. Le gars est toujours en retard. Là, il est arrivé avec 10 minutes d'avance.
On a failli pas le reconnaître en rentrant.
C'est pour ça que j'ai
fait. Exactement.
C'est pour ça.
Il ressemble à Gamal, mais il est à l'heure.
Et on doit ce générique, évidemment, à
Ménade,
où je suis.
Et Ménade donc la marche impériale.
Allez, c'est parti pour l'interview du jour.
Les informés. L'interview.
Et elle est avec nous, l'interview, justement, Sonia Bakhtialoud, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir tout le monde.
Vous êtes maire adjointe sur la ville de Bondy, vous venez nous voir ici, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Madame la maire adjointe, justement, nous parlons, je veux qu'on rétablisse un peu les faits, puisque vous êtes la chef de file du DI, on a, évidemment, vous avez connu une période où
Horizon,
ça a été extrêmement compliqué. UDI, non?
Horizon.
C'est Horizon maintenant, Horizon. Oui, vous avez raison, c'est Horizon maintenant, oui, absolument, parce que ça, c'était il y a quelques années. Effectivement, en arrière. Il y a plusieurs années, effectivement, je m'en mêle les pinceaux, mais ça, c'était à l'époque. Maintenant, vous êtes encarté auprès de Édouard Philippe, Horizon. Et vous avez connu depuis maintenant plusieurs années, effectivement, des épreuves. Et puis surtout, on n'a pas arrêté de vous pourrir la vie. Alors, depuis 2015, que se passe-t-il en gros? Essayons de rappeler les faits.
Alors, depuis mon engagement politique au sein de la ville de Bondy, une ville où je suis née et j'y ai grandi avec une famille qui est là depuis plus de 70 ans, donc malheureusement, depuis mon engagement politique, les choses arrivent et malheureusement, beaucoup d'intimidation, beaucoup d'agression et ça va de plus en plus en fait. Donc,
et pour quelle raison? C'est parce que vous exprimez tout simplement vos opinions, vous exprimez votre politique. C'est quoi qui dérange au fait?
Alors, pour le moment, on ne tombe malheureusement jamais sur les personnes, mais oui, je pense qu'il y a un lien avec la politique à Bondy. Donc, en effet, plusieurs voitures vandalisées, incendiées devant mon domicile, des insultes, des menaces. Mais je le rappelle que nous sommes des élus, mais avant d'être des élus locaux, nous sommes avant tout des êtres humains, des mères de famille, des pères de famille. Et c'est vrai que la première fois, deuxième fois, troisième fois, j'ai pas voulu dire les choses.
Et c'est votre voiture là que ça se concerne, hein?
C'est à chaque fois mon véhicule.
C'est votre véhicule qui a été incendié, d'accord? Et quand on touche votre véhicule, c'est quoi comme qu'est-ce qu'on vous envoie comme message?
Bah, dernièrement, la nuit du 2 au 3 novembre, ce que je disais, la tempête de la lâcheté a frappé. Donc, en se levant le matin très tôt, je trouve à peine 7 heures du matin mon véhicule complètement désosselé. Et on me dit souvent, oui, en effet, c'est du matériel, mais on a le sentiment, en fait, de se retrouver vraiment seul, isolé. Face à ces agressions, quelles qu'elles soient, hein, peuvent être ou matérielles, ou verbales, ou physiques. Et à un moment donné, on se pose un tas de questions, parce que beaucoup de choses nous viennent dans l'esprit en disant, oh là là, comment on va faire pour arriver rapidement au travail, prévenir l'assurance, la dépanneuse, les experts, aller porter plainte au commissariat.
C'est ce que vous dites d'ailleurs sur votre compte Twitter, vous dites la tempête de la lâcheté a encore frappé. Une énième plainte déposée au commissariat pour vandalisme sur votre véhicule, hashtag je ne lâcherai pas.
Et justement, je me pose la question aujourd'hui, combien de Sonia en France ont subi, vont subir et continueront malheureusement à subir pas plus tard, et d'ailleurs j'exprime tout mon soutien à la maire adjointe de Saint-Denis qui a vécu aussi ces agressions récemment, donc hier soir à la sortie d'une réunion.
Oriane Filol.
Tout à fait.
Qui a été victime d'une sauvage agression. Hein,
tout à fait, tout à fait. Et cette fois-ci.
Elle a été frappée au visage.
Oui.
Alors qu'elle sortait hier soir, très tard, d'une grosse réunion.
Et là, je me suis dit, en fait, quatrième véhicule, trop, c'est trop. Donc j'ai poussé cette fois-ci un coup de gueule sur les réseaux sociaux, ce qui a créé une sorte de focalisation médiatique. Et j'ai par la suite été reçue par le cabinet du ministre de l'Intérieur.
Monsieur Gérald Darmanin.
Tout à fait, que je tiens une fois de plus à remercier chaleureusement pour l'écoute et cette sensibilité envers cette problématique. Il faut le savoir, en mai 2023, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, ils ont lancé une sorte d'analyse, en fait, un centre d'analyse de lutte contre les atteintes aux élus.
Vous avez été soutenu ou pas? Est-ce que vous avez eu est-ce que sur la ville de Bondy, par exemple, vous avez reçu des messages de soutien? Est-ce qu'on vous a soutenu?
Parce que
là, c'est quand même, vous dites, hein, d'ailleurs, c'est la fois de trop. On l'entend tout ça, effectivement, mais ça dure depuis des années maintenant que vous faites l'objet à plusieurs reprises, effectivement, d'attaques personnelles.
Oui, tout à fait.
On touche votre véhicule, on vient chez vous, devant chez vous. Bref, est-ce que vous sentez cette menace permanente, évidemment, vous suivre?
Alors, je vous le cache pas, les enfants ont très très peur. Moi, je fais en sorte de minimiser les choses, mais intérieurement, oui.
Parce que c'est combien, la troisième, quatrième voiture?
C'est quatrième véhicule.
Ça fait quatrième voiture depuis 2016. Hein.
D'ailleurs, pour faire un peu d'humour, mon enfant me dit la dernière fois « Mais maman, tu devrais finir par t'acheter une trottinette. Au moins, tu peux être sûre qu'on ne te la cassera pas ou elle ne sera pas incendiée. » Mais bon, voilà, c'est quand même un sujet assez sensible. C'est aussi des menaces et des violences faites aux élus qui s'accentuent. Elles ont augmenté de 32% entre 2021 et 2022, 15% en 2023. Et c'est vraiment, voilà, nous on est là, on est aux côtés des concitoyens. On est là pour protéger aussi notre population avant tout. Mais on aimerait avant tout, en tant qu'élu, être à la fois respecté et protégé. Je pense que c'est un minimum. Alors voilà.
Vous avez décidé de poster votre vidéo, hein, la voiture, hein, votre
oui, qui a fait presque d'ailleurs un demi-million de vues.
Effectivement. De nombreux soutiens
des... Alors, des soutiens, oui, je tenais à les remercier aujourd'hui. J'ai la députée de la circonscription, Nadège Abomangoli, qui m'a apporté son
et les
soutien.
Filles, hein. Et les filles. Ça, c'est les filles.
Oui, tout à fait. J'ai Nathalie Loiseau, qui est députée européenne Horizon, aussi, qui m'a apporté son soutien. De nombreux maires, des parlementaires, des élus locaux, et tout simplement des amis, et beaucoup de familles et des amis qui m'ont apporté leur soutien et qui continuent à m'apporter leur soutien quotidiennement.
Dites-moi, qu'est-ce qui vous arrive, Gamal Abinar?
Je vous pose une question, mais c'est quoi les motivations?
Ouais. Bah, on l'a posé la question. Ouais.
De toute façon, est-ce qu'il se revendiquait? Est-ce que c'est une motivation raciste?
Il n'y a pas pour l'instant.
Elle a répondu.
C'est quatre véhicules qui sont ou incendiés ou vandalisés devant mon domicile, mais il n'y a jamais d'écriture ou quoi que ce soit.
Personne ne revendique.
Mais, voilà. Mais les tentatives d'intimidation, elles sont de quel registre? Ces intimidations, vous, qu'est-ce qu'on vous dit?
Bah c'est tout simplement des actes de voilà de tout ce qui est, on peut me on vandalise on c'est un peu pour faire peur c'est
vous avez peur pour votre quotidien? Vous avez parlé des enfants, mais est-ce que vous avez peur dans votre quotidien aujourd'hui?
Non, je suis sereine, mais moi ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que voilà, si demain il y avait des réunions de travail qui pouvaient se faire autour de la sécurité des élus, parce que vous le savez qu'il y a 36 000 communes en France, je ne suis pas la seule, malheureusement je ne serai pas la seule, je vois un peu loin et je pense aussi à ces femmes et ces hommes qui veulent demain se lancer en politique. Aujourd'hui, quand on voit les chiffres, ça peut faire peur. Ça peut faire peur et ça peut aussi les empêcher de se lancer dans leur engagement politique. Donc moi, vraiment, je peux apporter mon expérience, mon vécu et mon expertise si demain il existait en fait des réunions de travail pour améliorer la sécurité des élus en France.
Et vous arrivez d'être découragé puisque ça dure depuis plusieurs années maintenant ?
Découragé, non, parce que ça c'est de ma formation, on va dire, sportive. J'étais ancienne grande sportive au niveau. J'ai fait partie aussi de l'équipe de France. Donc, si vous voulez, quand j'ai un objectif, quoi qu'il en soit, je vais jusqu'au bout et je n'abandonne jamais. Et c'est pour ça que dans l'article du Parisien, je dis je ne lâcherai pas cette fois-ci. Quatre véhicules. En général, on dit une fois, deux fois, trois fois, bonjour les dégâts. Là, quatre fois, j'ai décidé de ne pas lâcher. J'irai jusqu'au bout de ce combat.
Les élus, plus globalement, vous avez fait référence tout à l'heure à Oriane Filhol, font l'objet souvent d'intimidations, hein, régulièrement d'ailleurs, on le voit partout en France d'ailleurs. Hein, c'est une,
partout en France. Oui.
Regardez, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, on entend évidemment souvent l'objet des élus, soit on a incendié la maison, soit on a incendié le véhicule, soit... tout cela, évidemment, ma question est très simple aujourd'hui, c'est devenu très récurrent. Est-ce qu'on a une explication ? Pourquoi s'attaquer aux élus aujourd'hui ?
Ben, nous sommes dans une ville les premiers en ligne de mire. Donc forcément, on est là pour répondre aux besoins et on est là juste... Enfin, on essaie de faire notre maximum. Je rappelle quand même qu'on c'est beaucoup d'investissement, c'est un engagement qu'on fait. Mais voilà, on peut satisfaire comme, malheureusement, pas satisfaire toute une population. On a quelques mécontentements, on essaye de faire en sorte notre maximum. Mais après, voilà, on ne sait pas. Moi, personnellement, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu plusieurs plaintes. Là, il y a une plainte en cours. On ne tombe jamais sur ces personnes-là qui, pour moi, aujourd'hui, sont des lâches de s'attaquer à des personnes...
Est-ce que à un moment, en vous réveillant un beau matin, vous avez des noms qui ont circulé, effleuré votre esprit ? Est-ce que vous avez pensé à des personnalités ou à des gens qui ont pu, évidemment, commettre cet acte ?
Non. Non, ça m'est jamais. Non, non, aucune idée. Je sais juste que c'est depuis.
Vous n'avez pas un début de piste, peut-être
Non, non, non. J'ai vraiment aucun nom, aucun suspect. Je sais juste que c'est depuis mon engagement politique que voilà, les choses ont changé. Voilà, au niveau des agressions, je vous le dis. Hein, je suis née à Bondy, j'ai grandi à Bondy. On y est depuis plus de 70 ans. On n'a jamais eu de soucis.
Mais vous avez porté plainte. Est-ce que la police, évidemment, est revenue vers vous ? Est-ce qu'elle a mené une enquête ?
Alors, pour les autres plaintes, elles sont pour l'instant classées sans suite. Mais là, l'affaire en cours, je fais entièrement confiance à notre justice.
Vous faites confiance en la justice aujourd'hui ? Vous allez aussi peut-être mener votre propre enquête, non ?
Non.
Non.
Non, non. Je préfère consacrer du temps à mes concitoyens et à ma famille.
Vous êtes plus que jamais déterminée en tant que maire adjointe ?
Oui, tout à fait.
Sur la ville de Bondy ?
Tout à fait. Et c'est pour cela que...
Vous parlez de sport de combat, justement ? Comment vous voyez la suite ?
Alors, sport au niveau, oui, j'étais championne.
Donc, vous êtes forgée déjà ?
Voilà, j'ai donc championne tout ce qui est championne de France tennis de table et équipe de France aussi. Donc, la pression, la détermination, la persévérance, voilà, ça fait partie un petit peu de, on va dire, de mes qualités. Et c'est pour ça que j'ai jamais lâché et que je ne lâcherai jamais.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire, puisqu'on arrive au terme de cette émission, de cette interview, pardon, déjà, hein, j'ai vu l'heure passer. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, justement, à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, et puis tous ces élus qui sont victimes souvent d'intimidation ?
Alors oui, ce message s'adresse bien sûr aussi aux élus, en disant que voilà, il ne faut pas qu'ils hésitent. S'ils se sentent aussi isolés et seuls, voilà, comme on dit, seul, on va vite, ensemble, on ira beaucoup plus loin. Donc vraiment, il ne faut surtout pas lâcher le combat que nous menons localement. Et puis remercier quand même, parce que ça fait partie aussi de cette détermination aussi, remercier tout mon entourage qui vit au quotidien ce genre d'agissement et d'intimidation à mes côtés. Merci
d'être venu en parler ici. Vous nous tiendrez au courant,
merci
évidemment.
Beaucoup.
Merci à Sonia Bakhti Alout, maire adjointe sur la ville de Bondy. Vous êtes chef de file et vous représentez Horizon.
Tout à fait.
On se retrouve dans une poignée de minutes, justement 0153483000. Vous pouvez nous appeler d'ores et déjà. Solal vous accueille au standard. Et puis ensuite, après, les débatteurs influenceurs, ils sont prêts pour s'emparer des sujets qui ont retenu notre attention aujourd'hui. C'est parti.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h. Les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Les informés, c'est parti tout de suite avec le face-à-face.
Les informés. Le face-à-face.
Avant de retrouver les auditeurs 01 53 48 3000, je sais qu'il y en a qui nous attendent depuis tout à l'heure. Je n'hésiterai pas à les prendre tout à l'heure. Alors, je vais accueillir Gamal Abina, bonsoir. Porte-parole et le cofondateur du mouvement MDC, mouvement des sans-voix. Comment ça va ?
Des droits civiques. Non, ouais. Ça va très bien, et vous ?
Très bien. Le président de la coopération franco-tunisienne, il s'appelle Raïd Chaibi, bonsoir.
Bonsoir Adil.
L'ancien élu, bonsoir, mais également aussi consultant numérique aujourd'hui, il s'appelle Ménad Ouchenir, bonsoir.
Bonsoir Adil, bonsoir à tous.
Ah, Belboï, bonsoir. Le président, justement, d'un think tank. Rappelez-nous, c'est ça, c'est vous êtes très engagé auprès des jeunes, justement.
Tout à fait. Ouais. FR, tous uniques, tous unis.
Ouais. Tous voilà. Uniques, tous unis. Ça, on en a besoin.
Tout à fait. Encore par plus. Les temps ça, qui courent, par les temps, ouais, qui courent, pour rester utopiste.
Messieurs, tout de suite, nous allons lancer ce premier sujet. Vous savez quoi? C'est la loi immigration. Et nous allons parler de cette fronde des départements de la gauche, qui elle-même a décidé, évidemment, de, tout simplement, de ne pas considérer cette loi, mais surtout de ne pas l'appliquer. D'accord? Alors, Éric Ciotti, il a décidé de s'agacer. Il dit, la gauche est une sédiction. Raïd Chaibi, vous voulez prendre la parole?
Que Éric Ciotti s'agace, c'est pas une surprise.
Si, il dit qu'il est scandalisé et c'est ahurissant.
Bien sûr, il est scandalisé, voilà. Mais ça c'est dans son rôle. Quand on est dans l'opposition, on est souvent scandalisé. Donc, à la rigueur, ça ne m'étonne pas. Mais je voudrais juste rappeler alors, disons que ça me coûte un peu de le dire, mais il faut quand même resituer le contexte. Quand une loi est appliquée et votée, on est censé la respecter en tant qu'élu. C'est la règle de base. Bon. Qu'il y ait des présidents de conseils départementaux, en l'occurrence le Lot, ou pour celui que je connais bien, la Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, qui décide parce que ça heurte leurs convictions.
Qui représente le PR, pas
même
socialiste.
Si, voilà. Même si je ne l'approuve pas, je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Qu'on refuse de l'appliquer. Mais j'aimerais juste dire à Éric Ciotti que je suis quand même assez sidéré, je trouve quand même son attitude assez culottée, de voir qu'il pointe du doigt donc ses présidents de conseils départementaux, d'autant plus que la loi n'est pas encore promulguée, pas
absolument
encore appliquée, parce qu'il y a aussi le fil du Conseil constitutionnel. Je vais y revenir dans quelques instants.
Qui risque de la retoquer.
On va revenir dans quelques instants, certainement. C'est quand même culotté de voir Éric Ciotti, dont le propre champion pour la présidentielle de 2027, Laurent Wauquiez, lui, par contre, ça ne lui pose pas de problème pour ne pas appliquer la loi climat et résilience. Mmh. Dans sa propre région. Il le refuse. La loi climat et résilience, dont une disposition prévoit, pour faire court pour nos auditeurs, mais qu'on doit respecter la nature, des sols, paysagers, etc. Donc, Laurent Wauquiez dit, moi, je ne l'applique pas. Ça, par contre, ça ne le dérange pas. Alors, ce n'est pas la même chose, mais ça deux poids, deux mesures, ça ne lui pose pas de problème. La deuxième chose, ça ne gêne pas Éric Ciotti de voter une loi dont on sait pertinemment que certaines de ses dispositions sont anticonstitutionnelles. Il n'y a pas un problème là-dedans ?
Gamal Abina, faisons un tour de temps, grosse hypocrisie.
Là, je suis d'accord sur l'ensemble de ce qui a été dit, mais pas encore anticonstitutionnel. Il faut d'abord attendre la décision du Conseil. Et c'est vrai que c'est de rappeler qu'il faut un décret d'application pour pouvoir appliquer une loi, ça commence par ça d'abord. Mais j'ai envie de dire simplement, il a raison de rappeler ça. Et l'autre aspect, c'est il y a une autre loi qui est passée et qui ne respecte jamais tous les maires de droite en général. C'est la loi sur le pourcentage de HLM dans leur région. Ils préfèrent payer l'amende plutôt que de faire des HLM. Donc ça aussi, c'est une loi qui existe depuis très longtemps et qui n'est pas respectée depuis des années. Merci et pour laquelle, manifestement, ils n'ont pas de problème. Donc, monsieur Ciotti, qui aime beaucoup jouer l'incendiaire, ne représente plus la droite que j'ai connue, une droite qui avait une certaine noblesse, qui avait une vision pour la France, qui se projetait au-delà des frontières et non pas dans des petites batailles du caniveau comme ça. Monsieur Ciotti est un homme médiocre qui aujourd'hui est dans l'offensive parce qu'il se croit avoir le vent en poupe, mais en vérité c'est du Le Pen moins bon. Aujourd'hui on nous fait des lois qui sont clairement discriminantes, des lois qui deviennent, comme on dit souvent d'ailleurs, des lois d'exclusion, des lois qui satisfont le Front National, puisque précisément ça s'appelle, on parlait beaucoup de préférence nationale, aujourd'hui on en parle de plus en plus. Et c'est inquiétant. Et je l'ai rappelé récemment à la télévision, la préférence nationale, le seul pays qui a appliqué ça à une époque très sombre, c'est celle de c'est les Allemands et les Nazis en l'occurrence, qui avaient appliqué la loi d'aryanisation, qui consistait à dire ceux qui ne sont pas ariens, donc allemands, donc nationaux, donc de souche, n'ont pas aucun droit. Et ils l'ont fait pour les Juifs et pour les Tziganes. Donc simplement, et même les Polonais d'ailleurs, répond. Donc simplement, parlons à M. Ciotti, c'est que s'il était vraiment la droite, ce que je ne crois pas être la droite, s'il avait le niveau d'un de Villepin, il pourrait parler aujourd'hui, il ferait mieux de se taire un peu.
Ménad Ouchenir et ensuite à Belboï. Ah, effectivement.
Alors, je rejoins l'analyse.
analyse brillante de mon ami Riyad Shaibi et les propos de... Je ne partage pas tout à fait à 100% les propos de Gamal Abina, parce qu'il y a quand même une comparaison historique qui mérite une certaine mesure. En revanche, moi, je ne suis peut-être pas aussi fin analyste, donc j'ai pris ma petite machine à voyager dans le temps et je suis remonté en 2012. Qu'est-ce qui s'est passé en 2012?
Qu'est-ce qui s'est passé alors?
Dites-nous. Le mariage pour tous.
Exact.
Ah oui. Voilà. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé au moment où la loi a été votée, appliquée? Oui, mais j'ai une petite machine à remonter dans le temps. On a eu des centaines de maires partout en France qui, je ne marierai pas les couples de même sexe. Bon, on finit par le faire. Et maintenant, plus personne ne remet en question. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut décréter qu'on n'appliquera pas. Ils finissent toujours par l'appliquer. Donc, c'est qu'une posture. Et si j'étais Éric Ciotti, et sans mauvais jeu de mots, je prendrais un peu de hauteur et j'essaierais justement de... redorer, si le terme est approprié, le blason de nos institutions et les respecter et arrêter d'utiliser des mots comme sédition qui ont aussi une charge sémantique importante. La France, non, on n'est pas encore dans ce contexte-là. Je l'encourage à ouvrir des livres d'histoire ou même de géopolitique pour aller mesurer. Et moi, si j'ai à mon tour prendre un peu de hauteur, c'est que ces derniers temps, je dirais ces dernières années, on est quand même dans la surenchère terminologique, sémantique et sémiotique même, où on utilise des termes assez incroyables. Là, on parle de nazis, on parle de sédition, on parle qu'est-ce que j'ai vu encore, les heures les plus sombres, j'ai entendu encore tout à l'heure. Ça en devient ridicule et ça décharge les mots de leur sens et de leur poids, ce qui fait que le jour où on va vraiment les avoir, au hasard, peut-être 2027, peut-être un peu plus tard, à les employer ces mots, ils seront complètement vides de sens et vides de poids, et on aura fait finalisé l'exercice de la fameuse banalisation.
Exact.
Et là, bisous, au revoir tout le monde.
Babel Bouy,
je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, notamment sur le choix des mots. On est dans un monde où communication rime avec manipulation. Éric Ciotti, il y a encore quelques semaines, n'était plus personne et il profite du contexte de cette loi pour revenir sur le devant de la scène, pour tenter de faire quelque chose en pensant de façon tout à fait irréaliste qu'il pourrait revenir d'une manière ou d'une autre via son parti, via le champion qu'il choisira en 2027. Maintenant, le terme de sédition est un terme très très grave, parce qu'on parle quand même pas d'une petite révolte, mais d'un mouvement qui vise à renverser un régime en place, d'accord ? Donc c'est pas parce qu'il y a des personnes qui peuvent être percutées dans leur conviction, et je pense que beaucoup de personnes sont percutées au sein même de la population, qui se retrouvent à exprimer des choses, comme ça a été dit. On voit que le mariage pour tous, on voit que le pourcentage de logements sociaux n'est pas appliqué partout, ça ne l'a jamais gêné, sans parler d'autres choses dont on pourrait parler, certaines choses qui se passent entre lui et Christian Estrosi, qui ne sont pas très catholiques dans leur région, mais on restera sage sur ce point-là. Donc il est très important pour la population que nous sommes d'avoir du recul, parce que c'est un moment qui est très difficile et nous enchaînons des moments difficiles à chaque fois. Donc il y a eu malheureusement un acte criminel près de la Tour Eiffel, il y a eu le contexte, écoutez ce que je veux dire, il y a eu le contexte du conflit israélo-palestinien. Maintenant on arrive à une autre période qui est très difficile psychologiquement pour la population, du moins pour une partie de la population. Donc le responsable politique doit faire très attention à sa communication et à ne pas mettre de l'huile sur le feu au risque d'entériner le désamour de la population pour la chose politique.
Gamal Abina, rapidement, et ensuite Réunion, avant de retrouver Aurier qui nous appelle du 69.
Sans faire du point Goldwyn, quand je parlais tout à l'heure des lois nazies d'exclusion, c'est que c'est des lois qui stigmatisent une population. Oui, c'est donc le lien, il est là. Par contre, la sédition, je peux en donner un lien très précis et qui a existé en France. Lequel? 58, le coup des généraux en Algérie. C'est une sédition militaire contre laquelle De Gaulle s'était effectivement opposé. Donc il ne faut jamais oublier qu'à la suite de ce coup de force, il y a eu une nouvelle république et une chute d'une république. Donc ça, c'est important de rappeler que historiquement, il y a des liens possibles, mais les mots ont un sens, effectivement. Je pense qu'on ne va pas les désincarner, c'est bien l'extrême droite qui est à la manœuvre, et c'est bien les écrases d'extrême droite. Il y a 20 ans, je le disais récemment, il y a 20 ans, personne n'aurait osé même imaginer une loi comme celle-ci. Aujourd'hui, elle devient normale.
Ryan JB.
Oui, très rapidement également. Je suis d'obédience politique différente du président Stéphane Roussel de Seine-Saint-Denis. Mais quand on parle de sédition, enfin les camarades qui sont ici l'ont dit fort justement, j'aimerais bien qu'Éric Ciotti se retrouve ne serait-ce qu'une heure à la place de Stéphane Roussel pour gérer un département aussi difficile, passionnant certes, mais difficile que la Seine-Saint-Denis.
Exactement.
Donc qu'il voit ce qui se passe dans notre département avant de dire de telles choses. Et la deuxième chose, puisqu'il passe son temps à pleurer dans les chaumières, Gamal Abina me corrigeait à juste titre, quand on présente une loi, c'est pas le gouvernement pour le coup, puisque ça a été amendé par le Sénat, puis ensuite par la commission mixte paritaire avant d'être présenté à l'Assemblée nationale pour le vote définitif. Mais il n'est pas au courant qu'il était sur le point de voter une loi dont la première ministre elle-même, le ministre de l'Intérieur lui-même, considérait qu'il y avait des dispositions qui n'étaient pas constitutionnelles. Après, il vient pleurer en disant « Ah bah finalement, on se remet au Conseil constitutionnel, c'est un déni de démocratie, etc. etc. » Ils n'ont pas des juristes. Il n'a pas de juriste pour contrôler que c'est anticonstitutionnel.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Lorsque vous entendez la sonnette, c'est la priorité aux auditeurs, tout simplement. Et Auria. Bonsoir Auria, vous nous appelez du 69. Vous êtes secrétaire.
Ah ouais. Vous savez quoi? Oui. Je m'arrête. Comment allez-vous?
Très bien Auria, ça fait plaisir, tout va bien.
Franchement,
vous nous appelez du côté de Lyon, non? Lyon?
Tout à fait, les Lyonnais avant tout.
Ah, Lyonnais, allez, on vous écoute.
Bon, bah, je voulais juste vous dire que le témoignage de la dame, là, quatre voitures incendiées, c'était
la maire adjointe qui est toujours là dans les studios.
Ah,
hein,
ouais,
effectivement.
En tant que citoyenne.
Elle vous écoute. C'est Sonia Bakhti Alout. Elle vous écoute.
Voilà, bah, franchement, beaucoup de courage. Beaucoup de courage.
Merci beaucoup, madame. Merci.
De rien, votre témoignage est poignant.
Merci.
Voilà. Et en ce qui concerne la loi immigration, alors là, c'est un grand débat. Maintenant qu'elle est votée, qu'est-ce qu'on va faire?
Oui,
il faut l'appliquer. À part subir.
Elle n'est pas encore
appliquée. Attendez, on attend le Conseil constitutionnel. Hein.
Elle n'est pas appliquée.
Oui, mais vous savez,
ouais.
Dans les tuyaux.
C'est dans les tuyaux, c'est vrai. Attendons maintenant le Conseil constitutionnel. Ils ont la balle dans le camp du Conseil constitutionnel qui va trancher. Certainement, je pense qu'il y a quelques tests qui vont être repris, retoqués, etc. Mais est-ce que c'est le rôle aussi du Conseil constitutionnel de retravailler certains textes? Non, ça c'est le rôle de l'Assemblée nationale, normalement. C'est son rôle. Alors là, on se retrouve avec le Conseil constitutionnel qui, lui, va peut-être retravailler certaines parties. C'est pas son rôle, rappelons-le. Hein. Retoquer, oui, mais là, il va devoir retravailler certains passages. C'est ça qui est pénible. Alors, est-ce que n'était-ce pas là une stratégie de la part du chef de l'État? Certainement, on peut se poser la question. Merci Auria de Lyon et merci pour votre soutien auprès de la maire adjointe. Merci à vous.
Je vous embrasse à tous.
On vous embrasse. 01 53 48 3000. Vous nous appelez, vous continuez de nous appeler et surtout Solal vous accueille au standard au 01 53 48 3000. Parlez de civilisation. Il faisait référence aux émeutes. Il faisait référence aux émeutes des quartiers populaires. Et alors certains disent que ça relève du contresens. Gamal Abina, franchement, parlez de décivilisation.
Bon, c'est déjà que c'est un vieux terme qui avait été utilisé par un intellectuel que je ne nommerai pas ce soir, parce que ça n'a pas d'intérêt, qui était dans une démarche.
C'est surtout aussi... les sociologues qui parlent de ça.
Oui, c'est ça. Enfin, j'étais pas sociologue, mais bon.
Mais c'est hasardeux, non?
Non, c'est pas hasardeux. Le problème d'accord. On parle de M. Macron, il a une tentation de toujours satisfaire la droite et la gauche de son courant politique.
En même temps.
Et moi je trouve que c'est de la stratégie politique, le côté en même temps, c'est un slogan. En vérité, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des tests, il envoie des ballons d'essai, puis après il recule si ça va trop loin. Macron ne se positionne pas comme un chef d'État qui va parler pour tous les Français, il se positionne comme un chef de parti qui est à une posture partisane. Et un jour à droite, un jour à gauche. Le problème, c'est ça. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand tu utilises un terme outrancier, car c'est encore une fois, c'était dit tout à l'heure, outrancier, c'est une façon de dire qu'il y a une forme de sauvagerie qui s'installe dans les sociétés.
Voilà, sauf que là, il lance un appel contre la décivilisation. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Des quartiers, des habitants des populaires. Je veux savoir.
Justement, j'ai eu l'occasion de parler de choses. Donc, ça, ces gens qui ont un discours décliniste, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est l'extrême droite qui parle comme ça. Il dit que c'était mieux avant. Le problème, c'est que si on recule dans le passé, si on s'intéresse un peu à l'histoire, ce que beaucoup de ces ignorants n'ont pas dans la tête, on connaissait à une époque une ville qui n'avait pas d'éclairage public, qui n'avait pas d'électricité, où il y avait des rues qu'on appelait les rues à se faire détrousser ou les rues coupe-gorge. Il n'y avait que les Européens à l'époque, il n'y avait pas d'immigrés, hein, d'accord? C'était avant le 19e siècle. Ensuite, il y a eu les rues où on se faisait dépouiller, régulièrement se faisait tuer. Et sachez aujourd'hui, il faut que les Français sachent qu'il n'y a jamais eu si peu de morts en France qu'aujourd'hui. C'est vous dire. Il y a en moyenne 3 morts par homicide par jour. Alors c'est trop, ça fait à peu près 900 morts par an, mais on est dans une baisse de violence et de l'autre côté, on est dans l'outrance verbale. Donc quand il dit ça, il fait croire que il y aurait une frange de la société qui aurait des colorations, une couleur un petit peu africaine, on dira, qui serait ensauvagée, puisque ça a déjà été utilisé.
Bah, c'est ça.
Et mais le problème, c'est quand on crée ce genre de clivage, on crée une atmosphère délétère, une ambiance de stress permanent pour garantir que le sécuritaire l'emporte sur la raison. Donc aujourd'hui, quand il dit ça, bah, il dit simplement, il fait de la politique, il fait de la tambouille politicienne et il ne se projette pas comme un homme politique qui va apaiser le débat.
Rémi Tchelebi, faisons un tour de table. Effectivement, il faut qu'on en parle.
Je l'ai entendu hier soir, il avait indiqué qu'il citait plutôt le sociologue Norbert Elias.
C'est passé sur
France 5. On va lui accorder la présomption de sémantique. Je rejoins Mena sur ce qu'il disait
sur
tout
la
à l'heure en parlant de...
Sur la décivilisation.
Oui, justement. Mais je rejoins Mena sur ce qu'il disait, sur le fait que aujourd'hui, on utilise des sémantiques ou des terminologies qui font que alimenter, on va dire, cette espèce de cercle vicieux de la discrimination, etc. Je pense que plutôt que d'utiliser des formules chocs, il faudrait mieux agir pour lutter contre les incivilités. Je préfère le terme d'incivilité. Je pense que c'est plutôt
vous préférez
c'est mieux adapté plutôt que d'essayer de plaire. Même si encore une fois je mise sur la présomption, mais faut faire attention aujourd'hui à ce que l'on dit dans un contexte aussi tendu que le nôtre.
Et ben justement, ça a trait ça aussi des propos d'Abel Boué, puisque lui aussi, hein, il est sur le terrain, il rencontre ces jeunes régulièrement. Mmh. Et oui, qu'est-ce qu'ils entendent par décivilisation? Ryan Chaby aussi également. On marque une pause et on se retrouve tout de suite après. De rester avec nous, ne bougez pas.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, Les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Les informés avec Abel Bowie, avec Mela Douchenir, avec Raïd Chebi, enfin Gamal Abina, et vous aussi au 01-53-48-3000, vous pouvez nous appeler à tout moment pour commenter les sujets d'actualité. Raïd Chebi. Parlons évidemment.
Non, Mela Douchenir.
Mela Douchenir. C'est vrai que je vous ai regardé, j'ai dit Raïd Chebi.
Quand même.
Vous vous rendez compte
ne m'insultez
même,
pas. Ah.
C'est ça.
Je plaisante.
C'est ça, je l'ai vu. Je l'ai vu, il n'a pas réagi. Je me suis dit, tiens, il réagit pas.
La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe.
Oh,
allons-y. Donc je pour revenir au sujet qui nous occupe essentiel. Donc ce qu'a fait Emmanuel Macron en parlant donc de décivilisation, oui, on lui laisse le bénéfice du doute parce que ça pourrait être aussi du Renaud Camus, hein. Sait-on jamais.
Merci.
Hein, donner les noms. On parlait d'ensauvagement, de décivilisation. Moi aussi, je vais aller sur un terme en Sion, puisque moi, j'ai l'impression que ces derniers temps, et Emmanuel Macron étant un des principaux instigateurs, on va dans une Welbeckisation du pays. C'est finalement aller décrire un pays qui est divisé, qui est en pleine fausse guerre civile, puisque en fait les Français finalement s'entendent bien quoi qu'on en dise. Enfin, il se passe rien de spécial dans nos territoires, il se passe rien nulle part qui tend à devoir nous inquiéter plus que ça. En regardant la télé, on a l'impression que le peuple, je parle des gens du peuple, sont archi divisés. Je parle les vrais gens de la vraie vie de tous les jours.
Du peuple.
Bon, le matin dans le RER, on est tous les uns sur les autres, on est tous dans le même panier, peu importe, j'ai envie de dire, l'origine ethnique. Maintenant, s'il veut parler vraiment de civilisation, moi, je pareil, alors là, c'est pas ma machine à remonter dans le temps que j'ai pris, c'est mon avion, eh ben, allons à Mayotte.
Ah oui.
Par exemple. Ouais. Territoire français, puisque contrairement à ce que certains aimeraient ou autres. Moi, on l'attend encore à la civilisation là-bas en termes de réseaux d'assainissement, d'eau courante, d'hôpitaux, de services publics. On peut parler de la Guyane aussi, on peut parler aussi de tout le territoire, Martinique, Guadeloupe, on les salue tous. C'est là-bas qu'il faut aller travailler et civiliser et amener la République et pas essayer de la diviser ici, parce que le travail d'un président de la République, pardon, c'est de rassembler, c'est pas de diviser.
Alors, vous, à Balboa, pour le coup, vous êtes confronté à une difficulté, ou pas, certainement. Vous les rencontrez, ces habitants des quartiers populaires. Mm-hmm. D'ailleurs, vous rentrez, hein, vous étiez avec eux cet après-midi.
Oui, tout à fait.
Ah bah oui, comment, qu'est-ce qu'on peut leur dire lorsqu'on, évidemment, le chef de l'État lui-même parle de décivilisation?
Non, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on joue naïf. Emmanuel Macron peut lui faire tous les reproches que l'on veut, mais il y a une chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est que c'est une personne très intelligente, une personne très cultivée, et que c'est un homme de lettres. Donc, lorsqu'il choisit les mots, il ne le fait pas au hasard. Quand on parle de l'outrance, on peut se souvenir comment il cataloguait les personnes qui refusaient de se vacciner pendant la période du Covid. Et lorsqu'il utilise ce terme, il sait que c'est un terme qui est beaucoup utilisé dans les mouvances d'extrême droite, qui vise à déshumaniser, à barbariser les personnes qui sont issues de l'immigration. Et on sait très bien que dans le contexte actuel, même si vous le savez très bien, Adil, je suis anti-discours victimaire, je suis anti-team pleurnichard, et lorsque j'encourage les jeunes, je les encourage dans la responsabilité citoyenne. Néanmoins, je pense qu'un président ne devrait pas dire ça, sachant qu'il sait très bien que comme la tendance est de dire que c'est Marine Le Pen qui est la grande gagnante, il sait à qui il s'adresse quand il utilise ce terme. C'est un homme qui peut se montrer même très vicieux, donc je ne crois pas qu'il ait utilisé ce mot au pif, et effectivement j'aurais préféré, en tout cas il eût été préférable qu'il parle d'incivilité exactement, et d'axe à améliorer dans un élan et un esprit positif plutôt que ce terme fallacieux.
Ça m'amène bien justement dans cette tribune publiée dans Libération, loi immigration, nous sommes des millions à nous sentir rejetés par le plus haut sommet de l'État et les institutions de notre démocratie. Terrible, il faut la lire cette tribune, hein. J'invite tous les auditeurs à aller se la procurer sur Libération, vous tapez sur internet, vous verrez. Ça parle à tout le monde, cette tribune, finalement, Gamal Abina.
Bien sûr, parce que, de toute façon, il ne faut pas se voiler.
En gros, les Français issus de l'immigration sont choqués. Pas choqués, non, blessés.
Vous savez, l'erreur...
C'est ça, non ?
Tout à fait. L'erreur stratégique de M. Macron, il en a fait beaucoup, mais celle-là, elle est énorme. Il a eu un début de quinquennat, du premier quinquennat, qui était pas mal. Pendant deux ans, il n'avait pas de problème, les tensions avaient baissé. Puis après, il a basculé sur l'aile droite de son parti. Je prends un exemple très concret. Une des erreurs graves qu'il a commises récemment, c'est Hanouka à l'Elysée. Pendant cinq ans, il nous a bassinés avec la laïcité à tous les étages. Il faut surtout pas qu'il y ait de trêve de Noël. Les musulmans doivent disparaître. On va parler d'Abaya. Et puis d'un coup, paf, il met Hanouka à l'Elysée sans réfléchir aux conséquences. Eh bien, la communauté juive elle-même, en premier, oui, s'est assurée contre ça. Il a eu peur parce qu'elle a dit qu'est-ce qu'ils font ? Nous pointer du doigt, c'est dangereux. Ça donne l'impression qu'on a un pouvoir sur la politique, ce qui n'est pas vrai. Eh bien, je vais dire la même chose par rapport à la question des immigrés, des fils d'immigrés, des descendants. On a 50 000 noms pour les désigner. Diversité, descendants d'immigrés, voyous, délinquants, violeurs, tout ce que vous voulez. Mais dans les faits, ils parlent des Africains au sens large du terme. Faut pas se limiter à l'Afrique du Nord. C'est l'Afrique au sens large. Et on passe par le religieux pour pas taper sur la race. Et on passe par la culture pour faire croire qu'on est des sauvages. Et ça a été dit un instant d'ailleurs, et très bien dit par Abel. L'idée de se dire qu'on est en sauvagerie, ça veut dire qu'on est issu d'un peuple de sauvages. Oubliant par là même qu'on a apporté un peu de lumière dans le monde. Mais ce qui est grave, c'est que le sentiment général, c'est que des lois de plus en plus ciblantes, ce qu'on appelle des lois d'exception, hein, c'est comme ça que ça s'appelle concrètement, ces lois ciblantes donnent le sentiment qu'il y a un acharnement vis-à-vis d'une communauté qui n'a rien fait et à qui on ne doit pas reprocher grand-chose. Et ça a été dit tout à l'heure et très bien par Ménade, et en vérité, si vous ne regardez pas le miroir déformant des médias, eh bien, ça se passe bien. Il y a effectivement des incivilités assez chroniques, mais moins importantes qu'il y a 10 ans. Et surtout, il n'y a pas de haine de la population française. J'en veux pour preuve, je le répète systématiquement. Il n'y a jamais eu, je le rappelle, jamais eu de manifestation.
Mais cette tribune, vous dites quoi ? Parce que là, c'est tous les Français. Justement, tous les Français issus de l'immigration, ils se sentent blessés aujourd'hui.
Ils sont blessés parce
c'est
que
votre cas ?
Oui, bah évidemment. Ouais. Mais je veux dire, les Français n'ont jamais manifesté en masse contre l'immigration, jamais. C'est jamais arrivé. Non. Et c'est important de le rappeler. Ils manifestent pour le social, ils manifestent pour des attentats, ce qui est normal, tout le monde s'en concerne, mais pas pour ça. Donc dire que cette tribune dit qu'on se sent visé, évidemment qu'on est visé. Vous allez sur n'importe quel média aujourd'hui, si vous avez une tête de bronzé.
Sauf que là, vous lisez, nous les immigrés, nos enfants avant également contribué au rayonnement culturel, scientifique, sportif, économique de la France dans le monde entier. On parle de Marie Curie, Charles Aznavour, Dalida, Romain, Zinedine Zidane, Leïla Slimani, Kylian Mbappé, bref.
Louis de Funès, on peut y aller, mais je vous en raconte. Gustave
Eiffel. Et plein d'autres.
Gustave Eiffel est un immigré. C'est un Allemand d'origine. Il a changé son nom pour se franciser. C'est vous dire un peu la puissance de ce que l'immigration a apporté à ce pays. La plupart des grands humoristes français.
Donc tous ces gens-là, ils ont participé
à. Ils ont participé à la construction d'une culture.
Plus que ça.
D'une culture, d'un rayonnement.
Au symbole de la France.
Bah, je vous dis, vous savez, quel est le fils immigré le plus célèbre aux États-Unis aujourd'hui, qui est français. Là-bas, il est français, pas ici. Hein. Eh bien, c'est un acteur marocain que vous connaissez tous, de la haine, qui est une méga star aux États-Unis, comme l'était en son temps à l'époque
Yves Montand.
Comme l'était Yves Montand en son époque, qui était italien, c'est vous dire un peu le niveau, quand beaucoup de chanteurs, d'acteurs ou autres ont été brillants aux États-Unis, en France, ils ne sont même pas perçus comme français. Aujourd'hui, il y a
Omar Sy également.
Omar Sy, bien sûr. Mais lui, vraiment, Tagmaoui, c'est un phénomène. Il faut voir ce qui se passe aux États-Unis, il est super connu. Et bien simplement, ici, il est méconnu. Et il refuse de rester ici. Vous savez pourquoi ? Je vous donne une phrase. Parce qu'on lui proposait des rôles de petit délinquant de banlieue. Il en a eu marre, il est parti. Et bien ça dit des choses. Le réflexe, et je parle, écoutez bien le mot, le réflexe raciste, malheureusement, réflexe, je ne parle pas de racisme. Les réflexes racistes sont très ancrés dans l'esprit des gens parce que malheureusement, quand on entend noir, c'est forcément un feignant.
Alors, fier d'être français ou pas alors, finalement ?
Mais il n'y a pas à être fier des Français, c'est idiot d'être fier de quelque chose. On est Français, on est citoyens, ça arrête là. La fierté, c'est quoi ? C'est ce qu'on fait, parce qu'on est.
Ray Chaibi, ouais, faisons un tour de table.
Bah, vous savez,
c'est important. Cette tribune-là, effectivement,
cette tribune résume tout. Ça me fait penser à cette blague qu'avait dit Jamel Debbouze.
Bah, surtout, on parle de 7 millions.
Bien sûr, bien sûr.
7 millions d'immigrés vivant en France.
À cette blague. à cette blague de Jamel Debbouze qu'il avait fait lorsqu'il y a eu la remise, je crois, du ballon d'or à Zinedine Zidane, je crois, pour toute sa carrière, quand il avait dit qu'il a aboli le racisme pendant 48 heures.
C'est énorme, ça.
Avec les buts qu'il a. Mais c'est exactement ça.
Punchline, c'est-à-dire que veut tout dire.
Cette France qu'on nous rappelle, la France black blanc beurre de 98, etc., bah, j'ai l'impression que maintenant, dans les discours, elle est morte, en fait.
C'est très, très loin.
Et effectivement, le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui fait qu'effectivement, nous avons ce sentiment, je dis nous volontairement, nous avons effectivement ce sentiment de payer pour les autres. Alors qu'en réalité, dans les faits, ça se passe très bien. On a eu la chance, elle est toujours là, d'avoir une élue héritière de l'immigration, qui est une élue de la République, qui mène son combat et son mandat de manière exemplaire. Sonia Ménade aussi, qui était un ancien élu. On a également Abel qui est un acteur associatif engagé, Gamal également, qui est bien avant nous, d'une autre génération, à mener ces premiers combats-là. Je veux dire, on a, je pense, chacun d'entre nous autour de la table, nous ne sommes pas représentatifs de ce qu'est la France, naturellement, on ne va pas avoir cette prétention. Mais je pense que nous avons, et puis ma qualité de responsable associatif, s'investit en plus entre les deux rives de la Méditerranée, entre la France et la Tunisie, parce que j'ai aussi cet héritage-là de mes parents, on prouve chaque jour, sans forcément le dire, que nous sommes attachés à la France et que nous investissons pour aller. J'ai été en plus un ancien élu de la République, un élu local à Drancy. Donc aujourd'hui, quand on voit le discours de ce qui se passe, notamment au niveau institutionnel, malheureusement, on a l'impression, déjà auparavant, on avait l'impression qu'il fallait faire deux fois plus d'efforts. Aujourd'hui, je pense que ça a augmanté, même pas à deux fois, mais plutôt à dix fois plus d'efforts.
Mais Nadouchenia, je veux pas vous mettre en retard, on est dans les clous. Non, pendant deux mois, allez-y, prenez votre temps.
Moi, je me demande à qui va profiter cette loi, puisqu'en fait, finalement, on est en train de créer un contexte législatif qui, s'il avait été créé il y a un siècle, aurait empêché une bonne partie de la prospérité française de ces 100 dernières années. Donc, ceux qui ont fait prospérer la France.
De faire participer justement à des moments historiques de la France.
Les Marie Curie, les Mbappé et autres, etc. Leurs parents n'auraient pas eu le droit de venir en France avec des telles lois. Et ce qui fait que tout le rayonnement qu'ils ont apporté par la suite n'aurait
Dalila,
pas eu lieu.
Ce qui veut dire,
si on continue le raisonnement et qu'on pousse le raisonnement, c'est qu'avec une telle loi, à qui va profiter le crime, puisque on va se priver finalement, parce que les immigrés, c'est contrairement à ce qu'on veut nous faire croire ici, c'est pas qu'une charge, c'est des talents, c'est de la prospérité économique, c'est tout ce qu'on veut. Mais c'est pas parce qu'ils sont immigrés, c'est parce que comme ça que ça marche. Des Français qui vont aux États-Unis, qui montent des affaires et qui sont.
Moi,
je vous parle par exemple des tout petits boulangers et autres qui vont monter. Parce que aller à New York, essayer de manger correctement, je peux vous dire que c'est très compliqué. Mais maintenant qu'il y a quelques restos français, on y va. Donc, cette loi va créer en fait les conditions d'un déclinisme et d'un déclin de notre pays sur les prochaines décennies si jamais elle venait à être appliquée trop rigoureusement.
Abel, comme ça on est dans les clous, je vous laisse, vous avez quelques minutes, enfin une minute pardon, avant de retrouver Pascal Boniface.
Alors moi, deux points très rapidement, il y a quelque chose qui me gêne lorsqu'on aborde le sujet de l'immigration et je mets toute la classe politique au banc des accusés, entre guillemets, surtout les politiques de premier plan, je ne parle pas des élus locaux, effectivement, qui servent de soupape. Quand on parle de l'immigration, on doit parler éventuellement, effectivement, des flux, faut réfléchir, et de la qualité d'accueil, faut parler des deux. Moi, quand je vois le débat public, j'ai l'impression qu'il y a une partie qui parle des flux, l'autre partie qui ne parle que de la qualité d'accueil. Et ça, pour moi, c'est un grave problème. Maintenant, aujourd'hui, on voit que la France, qui est le pays des droits de l'homme, est en train de prendre clairement le chemin de devenir le pays de la préférence nationale. Parce que quand on nous dit, regardez ce qui se passe ailleurs, regardez ce qui se passe au Danemark, regardez ce qui se passe en Allemagne. Hier, sur BFM TV, il y a une élue du Rassemblement National qui ne connaît pas ces dossiers, qui dit que quand on parle de cette fameuse caution étudiante, elle vient nous dire que ça se fait en Allemagne. Sauf que ce qu'elle ne précise pas, c'est qu'en Allemagne, lorsque l'étudiant apporte sa caution, ça lui est rétrocédé par des mensualités. Donc c'est comme s'il paye en avance la bourse qu'il va avoir. C'est pas du tout la même chose, d'accord ? Donc même dans la philosophie. Et deuxièmement, dernier point très rapidement, moi je suis contre en fait les tribunes qui parlent à la place de tous les immigrés de France comme si nous pensions tous la même chose, comme si le fait d'être français afro-descendant faisant qu'il n'y avait pas de débat idéologique entre nous, ça me gêne philosophiquement à titre personnel.
Le débat est ouvert, hein, en quelque sorte. 19h50, on est dans les clous, c'est parti le Quoi de Neuf.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Et comme chaque jeudi, vous le savez, la DER, justement, de cette année 2023, c'est l'imminent Pascal Boniface. Bonsoir, mon cher Pascal Boniface.
Bonsoir.
Comment allez-vous tout d'abord ?
Bah, très bien, comme en fin d'année.
Vous êtes géopolitologue, mais surtout le patron fondateur de l'Institut Leris. Je vous lance parce que vous avez décidé de consacrer votre Quoi de Neuf, le billet d'humeur, autour de la question d'Israël, insensible aux pressions internationales. Allons-y.
Oui, il y a toujours, les combats continuent toujours, et Netanyahou a dit qu'il ne passerait pas un cessez-le-feu tant qu'il n'aura pas éradiqué le Hamas et que c'est toujours le but. Et donc on voit que le nombre de morts civiles s'allonge chaque jour, qu'il y a au-delà des bombardements une crise humanitaire, avec même la perspective d'une famine pour certains Palestiniens qui par ailleurs sont soumis aussi à une épidémie. Et bon, cela émeut quand même un peu les pays occidentaux qui commencent à demander des conseils de prudence à Israël pour dire il faut faire attention aux civils. Les différents présidents français, américains et autres montrent leur compassion pour les Palestiniens en demandant un peu de retenue à Israël. Cela ne sert strictement à rien, puisque cela n'a absolument aucun effet sur Netanyahou, qui continue et qui, en fait, sait très bien que les différentes mises en garde des pays occidentaux n'auront aucun effet. Quoi qu'ils fassent, ils vont protester verbalement, mais ne rien faire après. Donc pourquoi changera-t-il d'attitude ? Il n'a aucune pénalité à ne pas changer d'attitude. Il sait que son opinion publique le soutient parce que les Israéliens ont été frappés et choqués par les attaques du 7 octobre et que finalement, tant que la guerre continue, il peut préserver son pouvoir et éviter d'être mis en cause pour ce qu'il a fait aussi bien en termes de corruption avant les attentats que ses responsabilités dans l'absence de défense d'Israël à ce moment-là. Et donc, en fait, on voit bien qu'il y a une sorte de jeu de rôle où vous avez des pays occidentaux qui donnent une position de principe, mais qui est purement platonique, donc qui n'a aucun effet, et qui, en réalité, est plutôt relativement hypocrite.
Merci pour ce billet d'humeur. C'était un peu l'ADER pour clore cette fin d'année 2023. Qu'est-ce que vous dites à nos auditeurs et auditrices qui vous écoutent, mon cher Pascal Boniface ?
Bonne fête de fin d'année, que chacun profite de la famille, de ses proches, on se retrouve en 2024.
Et j'aimerais, si c'est pas encore trop tard, justement, si vous voulez, si vous manquez d'idées, de cadeaux, vous savez quoi? Eh bien, je vous propose, vous, des batteurs et tous les auditeurs. Et là, non, mais il a des ouvrages qui sont sublimes. Pouvez-nous les rappeler, s'il vous plaît, mon cher Pascal Boniface? Voilà, si on a des petites idées de cadeaux comme ça, c'est le moment.
Oui, voilà, écoutez, j'ai ma BD, il y a deux tomes, Géostratégique 5, qui est l'histoire du monde depuis 45.
Très bien, d'ailleurs.
Géostratégique 2, qui est l'état du monde actuel. En fait, qui fonctionne bien, c'est ludique, c'est il y a beaucoup d'humour, ça a été très bien mis en dessin par Tommy. Et puis, tout ce que me disent tous les profs, c'est que c'est très pédagogique et que ça permet aux jeunes d'avoir une initiation aux questions géopolitiques.
Allez vous la procurer, je vous le dis. Chers amis auditeurs, allez-y. Franchement, je l'ai lu, moi j'aime beaucoup. Pascal Boniface, merci, bonne fête de fin d'année, à l'année prochaine.
Avec grand plaisir, Ali. À bientôt.
Merci, à bientôt, 19h54 maintenant. Hein. C'est déjà la fin de l'émission. Hein. Merci à la maire adjointe, Sonia.
Merci Adil, merci beaucoup.
Prudence à vous.
Merci.
Gamal Abina, bonne fête de fin d'année.
Bonne fête et une pensée pour le peuple palestinien.
Raïd Chaibi, qu'est-ce que vous voulez dire?
Excusez-moi, Adil, dernière chose.
Oui.
À celles et ceux qui nous écoutent pour cette fin d'année 2023, notamment ceux qui sont au sein de nos institutions.
Allez, speedé, hein.
On a une constitution dont l'un des rôles est de garantir et de nous protéger contre l'arbitraire. Bonne année à tous.
Menadou Chenir, à bientôt.
Bonne fête de fin d'année à tous.
Oui, une autre idée de cadeau très intéressante. Dites-moi. Le livre Casquette français d'Abel Bowie aux éditions
FR. Abel Bowie, ça,
c'est la dernière chose que j'ai dit.
Je le connais.
On a parlé de discrimination avec les jeunes ce matin et je leur ai dit n'attendez pas d'être validé, d'être français pour être français. Travaillez, soyez dans la persévérance. Et l'esprit d'excellence pour faire briller la nation.
Bonne année à Adil Farkan.
Merci madame, messieurs, mais on se retrouve l'année prochaine. Hein.
Et même en 2024.
Et à demain.
Et on
absolument. Merci à Solal Larrain. J'ai pas fini, je vais remercier quand même Solal le réalisateur.
Solal aussi.
Je vais annoncer Bilal Nenman, Time Sport de 20h à 21h. Vanessa, que vous retrouvez tous les soirs à 21h. Kim, demain matin de 7h à 10h. Philippe et tous les programmes.
Menadou Chenir, par exemple.
À demain pour la der de l'année. Demain. C'est la der de l'année demain. Mais surtout, on ne lâche
rien. Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.